Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fous!
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un go, là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec nous, ça dirait la pétition.
Bonjour.
Bonjour.
Buongiorno.
Bienvenue à l'émission 828, non pas 28. Autour de la table aujourd'hui, Rachid.
Salut.
Maxime.
Bien le bonjour.
Serge.
Bonjour.
Greg.
Bonjour à tous et à toutes.
Notre invité du jour, Samy.
Salut.
Bonjour. À tes côtés, Nicolas.
Bonjour.
Houssine.
Ciao, bonsoir.
Olivier.
Buongiorno.
Malika.
Bonjour, auditeur, auditrice.
Antoine.
Hello.
Christopher.
Salut tout le monde.
Ben derrière la console. Et Thibaut qui est là en observateur aujourd'hui.
Hello.
Bienvenue à tous au programme de cette émission. Interview de notre invité, Samy Cheba, journaliste à La Voix du Nord. Ensuite, en deuxième partie d'émission, ce sera l'actu service. Puis on aura un sujet de Antoine sur les toxiques. La drogue, quoi. Pour parler vulgairement. Et puis, dernière partie d'émission sera la chronique de Maxime sur Escher, c'est ça, hein, si je dis pas de...
Oui, c'est exact. MC Escher, E-S-C-H-E-R, à ne pas confondre avec le chanteur.
Stéphane, ouais. Ensuite, on aura les sorties culture avec Greg, la météo de Malika. Côté musique, on va écouter l'ordi. C'est quoi déjà ton groupe, Max?
Razivarius.
Razivarius. Et pour commencer l'émission, on va écouter Serge. Serge, la parole est à toi.
Bonjour, auditeur, auditrice. Je vais vous passer un groupe gothique anglais. Pour l'illustrer, je vais vous passer Tête Cure. Et là, le titre de la chanson, c'est E Forest.
C'est The Cure.
The Cure, ouais. Tu voulais pas nous parler du mouvement gothique, Serge?
Ouais, tu peux en parler
tu
maintenant.
Tu peux nous parler du mouvement gothique?
Voilà.
Ouais, vas-y.
Bon, alors, qu'est-ce que une personne gothique? C'est quelqu'un qui s'identifie à la culture et au style gothique. Un mouvement fait ses débuts dans les années 1980. C'est un style vestimentaire sombre et mystérieux, comprenant des vêtements et des accessoires du style une bague avec une tête de mort et des coiffures originales, tout en noir, les cheveux noirs, les bottes, les pantalons, capes, longs manteaux, soit que c'est en cuir ou en tissu. Voilà.
Bah merci, c'était très complet. On va donc écouter un des groupes emblématiques du mouvement gothique, c'est The Cure, avec le classique A Forest. Les Entonnoirs, émission 828. C'était donc The Cure. Merci Serge pour ce premier morceau d'émission. On va pouvoir passer à l'interview de notre invité Sami Cheba. C'est comme ça qu'on prononce ?
C'est bien ça, Sami Cheba, comme la nourriture pour chat.
Journaliste à La Voix du Nord.
Ouais.
Depuis combien de temps ?
Oula, depuis le 16e siècle, depuis 2001.
Ok, rien que ça. Malika, première question.
Comment avez-vous connu les... Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Cheba. Comment avez-vous connu les Entonnoirs ?
Je l'ai connu grâce à Ben. C'est Ben qui m'en a parlé parce qu'on parlait d'un sujet lié à la radio. Et il me dit, tiens, est-ce que tu connais les Entonnoirs ? Et il m'explique un petit peu de quoi il s'agit. Et il m'envoie un mail avec différents articles et différentes vidéos qui parlent justement de votre émission. Et j'ai jeté un œil et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Merci de m'inviter.
Ouais. Et je voudrais poser une deuxième question.
Allez, vas-y.
Que pensez-vous d'Internet ?
Alors, d'une manière générale ou d'un point de vue journalistique ?
Journaliste.
D'un point de vue journalistique, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lelay, qui était le président du groupe TF1, qui disait que lui, il offrait du temps de cerveau disponible pour les publicitaires. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps de cerveau disponible. Ça veut dire concrètement que les gens vont sur les réseaux, vont sur Internet, et c'est autant de temps en moins pour les journaux papier. Nous, on est bien sûr sur le web, on est sur le web depuis de nombreuses années, et je vais même aller plus loin. On a une règle qui s'appelle le web first. Ça veut dire, avant toute chose, on va publier le papier sur le web, et ensuite, il va être publié dans la version papier. C'est une question logistique, en fait. C'est beaucoup plus facile de publier sur le web que de l'imprimer. Et donc, la priorité est donnée au web.
Et qu'en pensez-vous des autres journaux ?
Attends, Malika. On va donner la parole aux autres. Tu gardes ta question. Serge, il lève la main depuis tout à l'heure. Allez, Serge.
Bonjour, monsieur Sami Cheba.
Bonjour.
Alors, je voulais poser la question, comment on devient journaliste ? Et la deuxième question, la différence entre un reporter et un journaliste ?
Pour la première question... C'est comme tous les métiers. C'est-à-dire que vous devenez journaliste d'abord, je pense, par envie. Parce que très tôt, je vais parler pour moi, comme ça, ça sera plus simple. J'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours été plus ou moins curieux, voire très curieux. Et le métier qui correspondait à ces deux caractéristiques, me paraissait être le métier de journaliste. Moi, j'ai coutume de dire que quand on est journaliste, on vit mille vies. C'est-à-dire que le matin, on est avec des fumeurs de crack, le midi, on est avec l'ancien président de la République, l'après-midi, on va être avec un producteur de fraises. Et cette diversité de sujets, c'est ce qui me plaît par-dessus tout dans mon métier. Je pense que c'est ce qui m'a attiré. Quant à la différence entre journaliste et reporter, c'est plus ou moins la même chose, en fait. Le terme reporter fait plutôt référence à... plutôt un terme anglais, mais à La Voix du Nord, moi, je suis sur ma fiche de paie, je suis reporter.
D'accord, mais sinon, suffit pas d'être curieux et d'aimer écrire. Il faut aller dans une école de journalisme. On est obligé d'aller en école de journalisme pour devenir journaliste ?
Non.
C'est une vocation.
Non, la preuve... Je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait des études de lettres, mais je n'ai pas fait d'école de journaliste. Je me souviens avoir retiré le dossier pour l'école supérieure de journalisme de Lille.
Ouais, Lille, elle est réputée en plus.
Elle est très réputée. Je pense que c'est une des meilleures écoles de journalisme de France, en fait. Mais j'ai fait que retirer le dossier, en fait. Hein. J'ai jamais... voilà. Mais pour autant, ce que j'ai fait, c'est le conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent devenir journalistes et qui, voilà, sont pas très scolaires, c'est de faire du journalisme. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire de la radio, ensuite, quand j'étais au lycée, ensuite, j'ai écrit pour des magazines musicaux, tout ça de manière bénévole, et puis de fil en aiguille, en fait, bah, j'ai déjà appris le métier, et j'ai compris aussi que c'est quelque chose qui m'intéressait.
Bon, merci.
Dans les micros, les gars, les questions. Hein. Tu peux prendre l'autre micro. Prends plutôt l'autre micro, Nicolas. Ouais, prends celui de Houssine. Ouais.
Ça vous arrive de dire une grossièreté comme merde, j'ai oublié quelque chose dans le journal, par exemple
Ben oui, ça m'arrive, en fait.
Et ça crée des amendes ou ça ne crée rien du tout? Parce que je pense que dans le journal, c'est pas très propre de dire des grossièretés. Quoi.
Eh ben, écoutez, vous avez tout à fait raison. C'est pas très propre. Nous, la règle, en fait, elle est simple. C'est on ne dit pas de gros mots et on n'est pas obscène dans le journal, dans La Voix du Nord. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un journal qui va être sur la table du salon et peut-être que bah, des enfants vont lire le journal. Et on essaye vraiment d'éviter non seulement les gros mots, mais tout ce qui pourrait choquer, en fait. Mais il y a quand même une exception à ça, je dirais. C'est que parfois, il m'arrive d'écrire un gros mot dans une citation, parce qu'en fait, le gros mot va dire quelque chose de la personne qui parle, va peut-être dire sa colère, va peut-être dire sa spontanéité.
Oui, j'ai bien compris.
Et ben voilà.
Alors, d'abord, Olivier, Malika, Maxime, et après Greg.
Bonjour, monsieur Chéba.
Le micro, Olivier, on fait de la radio.
Bonjour, monsieur Chéba. À La Voix du Nord, avec vos supérieurs, est-ce qu'ils vous influencent pas trop? Est-ce que vous êtes pas trop, vous devez pas un petit peu vous limiter dans ce que vous, la liberté d'expression? Je sais pas si vous comprenez.
C'est une très bonne question. La réponse est non. Pour moi, la plus grande des censures dans le journalisme, et particulièrement dans la presse quotidienne régionale, elle se situerait plutôt dans une forme d'autocensure. C'est-à-dire, parfois, on ne va peut-être pas écrire certaines choses parce qu'on va estimer qu'on va blesser une personne, ou parce que on va estimer que peut-être c'est pas le moment d'en parler. Mais je pense que si censure il y a, c'est vraiment une question de personne, en fait. Et par rapport à votre sensibilité, vous n'êtes peut-être pas écrire la même chose. Quant à la hiérarchie, il n'y a pas de censure. Nous, la règle, elle est simple, c'est à partir du moment où ça peut intéresser le lecteur, ça mérite d'être dans le journal. Après, il va y avoir la forme. Quelle est la manière dont on va l'écrire? Évidemment, on va respecter les règles de la déontologie basique, c'est-à-dire donner le contradictoire. Si, par exemple, on attaque une institution ou quelqu'un, on va absolument, c'est une obligation professionnelle, les contacter pour qu'ils donnent aussi leur avis. Ça fait partie des fondamentaux du métier. Mais je n'ai jamais reçu de coup de fil de ma rédaction en chef qui me disait « tu n'écris pas sur ce papier-là ». Ça m'est jamais arrivé.
Malika.
Si. Monsieur Chéba, je voulais vous dire, qu'en pensez-vous d'Echo, les autres journaux, Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, etc.
Alors, là, vous citez surtout des journaux qui sont considérés comme des journaux de qualité, mais des journaux satiriques. C'est une forme de presse qui, pour moi, est essentielle. Elle permet de dénoncer et de dire les choses d'une manière différente. Et je pense qu'il y a une liberté de ton qui est intéressante journalistiquement.
Greg.
Oui, bonjour, monsieur Chéba. Voulez-vous savoir un petit peu si vous ne trouvez pas que dans la presse, les choses sont censurées, trop censurées?
C'est une question qui revient souvent. C'est une question qui mérite d'être posée. Je pense qu'en fait, elle témoigne en fait d'une forme de... Cette remarque-là ne vous est pas directement adressée, mais d'une forme de fantasme qui entoure la presse. Et c'est aussi le fait des journalistes qui, parfois, sont un peu décalés, voire déconnectés, en fait, de la société. Et nous, notre rôle, vraiment, c'est d'être au plus près de la société. Et à partir du moment où on a le sentiment... On peut avoir le sentiment qu'on est déconnecté. On a l'impression parfois que les journalistes sont sur une tour d'ivoire, dans une tour d'ivoire, et cachent des choses. En réalité, on vit la même chose que vous. Quand il y a des pannes de métro, ben voilà, moi je suis dans le métro, mon fils est dans le métro. Quand il y a un concert comme hier, il y a quelques jours, voilà, le concert de Bruce Springsteen, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient à ce concert-là, et ils ont eu exactement les mêmes problèmes que tout le monde, et on en a rendu compte dans le journal. Parfois, ce qui peut arriver, et ça c'est vraiment particulièrement le cas pour la presse quotidienne régionale, c'est que même si à La Voix du Nord, on est 300 journalistes, avec près de 1000 correspondants, c'est-à-dire sur le Nord et le Pas-de-Calais, c'est-à-dire un maillage très fin de tout le département du Nord et de tout le département du Pas-de-Calais, il peut arriver, et bien sûr, que des informations nous échappent. Et peut-être que c'est ce, comment dire, c'est ce qui peut donner parfois l'impression qu'on ne parle pas des sujets. En réalité, je peux vous le dire, si vous écrivez à La Voix du Nord, la plupart du temps, si vous faites part d'un problème particulier, on va parler de ce problème-là. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un message d'une dame qui me dit que son appartement a subi un incendie, elle est dans un logement social et le bailleur social a décidé de la reloger, mais dans un studio, alors qu'elle a deux enfants, des grands-enfants. Elle partait d'un T3 ou d'un T4 et on lui propose un studio pour la durée des travaux soit une année. Elle me contacte, pour moi, ça mérite un papier. Il va y avoir un papier sur ce sujet-là. Voyez, mais si je n'ai pas connaissance de son problème, je ne peux pas en parler. C'est souvent le problème.
Maxime.
Que penseriez-vous d'une rubrique culturelle et artistique dans La Voix du Nord ?
Eh bien, figurez-vous que cette rubrique existe et qu'elle est même essentielle au journal. Je vais même vous dire, au sein de mon équipe, on travaille sur toute la métropole lilloise, on est 13 journalistes, et il y a une équipe qui est totalement dédiée à cette thématique-là. Il y a 4 journalistes qui sont dédiés à cette rubrique-là. Et moi, je fais partie de cette rubrique-là.
Ah, oh, bah, très bien.
Alors,
ma question me tombe à pic, alors.
Olivier, d'abord.
Oui, monsieur Samy Sheba. Je me pose la question, pourquoi le Nord Éclair est un petit peu moins cher que la Voix du Nord ?
Ah, alors là, c'est une très bonne question. Je pense que c'est historiquement... Je ne vais pas dire de bêtises, ce n'est pas de certitude, mais je pense qu'historiquement, Nord et Clair était moins cher et qu'on a maintenu la différence de prix. Pourquoi je dis « on » Parce qu'en fait, Nord et Clair appartient au groupe Voix du Nord. Vous voyez ? On va produire la Voix du Nord et on va produire également Nord et Clair. Donc on pourrait imaginer qu'on pourrait ajuster les prix.
Les articles sont communs ou pas ?
Les articles sont communs. Ouais. Depuis... plusieurs années, je dirais, si je ne dis pas de bêtises, depuis plus d'une dizaine d'années.
Mais si les articles sont communs, que c'est la même
pourquoi acheter La Voix du Nord ?
Qu'apporte justement La Voix du Nord en plus de Nord et Clair ?
Eh bien, je vais vous dire, c'est une très bonne question, particulièrement ici à Roubaix. Pourquoi ? Parce qu'à Roubaix, historiquement, le journal local, c'est pas La Voix du Nord. Historiquement, le journal local, c'est plutôt Nord et Clair. Et c'est la raison pour laquelle on garde, en fait, Nord et Clair. On garde la marque Nord et Clair.
Bon, il y a beaucoup de questions. Antoine, ensuite Malika, et on passera à Christopher et les autres.
Alors, moi, j'aurais une question sur le journalisme en globalité. Est-ce que ça se passe un peu comme dans les films américains, dans les boîtes de journalisme, où c'est un peu la compétition et la guéguerre entre chaque journaliste de qui arrivera en premier à avoir un événement pour faire un article dessus, ou qui fera le meilleur article et sera publié, ou pas du tout, c'est totale collaboration et entraide entre collègues.
Je crois que c'est une question
marrante. Demain tu bosses. Hein.
c'est une question rigolote. En fait, je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une vraie collaboration, et c'est vraiment la force de notre journal, parce que quand on est 300 journalistes, je peux vous dire que quand on se met sur un sujet, on y va à fond. Mais il y a aussi une forme d'émulation. Je dirais pas de compétition, mais plus d'émulation. C'est-à-dire que quand on voit un collègue qui a fait un bon papier, on se dit, waouh, balèze de papier. Faut se mettre au niveau, en fait, si vous voulez. C'est un peu ça, l'idée. On est plus dans l'émulation, en fait. On n'est pas à se tirer dans les pattes pour aller récupérer le sujet de l'autre. Ça, on fait jamais. Je vais même aller plus loin. Comme on est sectorisé, c'est-à-dire que les 300 journalistes, ils sont répartis dans une vingtaine d'équipes, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Si il y a un sujet particulier à Douai, un super sujet, je n'irai pas à Douai parce que c'est le territoire de l'équipe de Douai. Vous voyez ?
Est-ce que c'est vrai entre les différents titres de presse aussi ?
Non, là, on est plus dans la concurrence frontale. Là, on est beaucoup plus mordant, j'allais dire. Ouais. Là-dessus, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Et des fois même, on en rage, en fait, quand quelqu'un a eu l'info avant nous, alors que c'est notre territoire et que, normalement, on devrait avoir l'info avant tout le monde, en fait.
Malika.
Moi, je voulais vous demander, est-ce que La Voix du Nord et Nord Éclair est lue par beaucoup de personnes âgées, je trouve ? Il y a une clientèle...
particulière.
Pas très jeune, elle est particulière, ouais.
Vous avez raison, la moyenne d'âge est des abonnés de la Voix du Nord est aux alentours de, je dirais, la cinquantaine, un peu plus.
Ouais.
Maintenant, justement, tout le travail, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'appareil photo que j'ai ramené, des vidéos que je fais, aujourd'hui, et du web, je vous en ai parlé aussi. Aujourd'hui, tout notre travail, c'est justement d'écrire pour tout le monde, en fait. Et écrire pour tout le monde, c'est aussi s'adresser aux gens de manière un peu différente. On a investi les réseaux sociaux il y a quelques années maintenant. On a mis les bouchées doubles l'an dernier. Et aujourd'hui, on estime en fait qu'on est multicanaux. Et moi, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, un journaliste, il est forcément polyglotte. Il doit parler plusieurs langues. La langue de la presse écrite, la langue de la vidéo et la langue des réseaux sociaux. Ça nous fait plus de travail, ça nous demande plus de souplesse et d'agilité, mais c'est la condition sine qua non à justement intéresser et atteindre surtout tout le monde. Parce que je pense que les sujets sont intéressants pour tout le monde. Si on prend l'exemple du métro, ça va intéresser les personnes plus âgées comme les jeunes et les très jeunes. Mais comment les atteindre en fait ? C'est ça la question. Et pour les atteindre, la vidéo, les réseaux sociaux.
Est-ce que dans plusieurs années, existera la Voix du Nord et une éclair ?
Pardon, j'ai pas compris la question.
Par exemple, dans quelques années, est-ce que Nord Éclair et la Voix du Nord existeront ?
Je le souhaite. je pense.
On peut pas prédire l'avenir.
Je pense que oui. Peut-être que ce sera une forme différente, parce que voilà, on a parlé des différents canaux. Comment est distribuée la Voix du Nord ? Est-ce que c'est du papier ? Est-ce que c'est du web ? Est-ce que c'est du réseau ? Les réseaux sociaux ? Je pense que oui. Et je le souhaite, non seulement pour mon journal, mais je le souhaite aussi pour la démocratie, parce qu'on sait que les journalistes, avec leurs qualités et leurs défauts, c'est un peu des auxiliaires de la démocratie. Et quand il n'y a pas de journalistes dans des territoires, comme ça commence à être le cas aux États-Unis, on sait que c'est ça laisse en fait toute liberté à des gens qui ont du pouvoir pour faire et dire ce qu'ils veulent. Nous, on est un contre-pouvoir. Avec nos petits bras, mais on est un contre-pouvoir. Et c'est essentiel qu'il y ait des journaux et des journalistes sur tous les territoires de France.
Je vous ai rarement vu aussi nombreux à lever les mains pour poser des questions. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre. Christopher, et après Rachid, et après Serge.
J'ai une question. Quel est votre meilleur souvenir en tant que journaliste ?
C'est une bonne question. J'en ai plusieurs, en fait. Je vais vous parler de mon premier meilleur souvenir. Il est très modeste, vous verrez. Mon premier meilleur souvenir, c'est que j'étais très jeune journaliste, donc, et j'entends parler d'un piratage informatique dans une bibliothèque à Ronchin. Et ça met en branle tout le système de la ville, c'est une catastrophe, etc., etc. Et j'écris le papier, et en fait, suite à ce papier-là, il y a un professionnel, un hacker gentil, on va dire, qui m'a contacté, qui avait la solution, en fait. Et le papier a réglé un problème. Et en fait, quand on est jeune journaliste, on ne mesure pas, en fait, au départ, qu'il y a, un lien entre ce qu'on va écrire et la réalité. On dissocie, en fait, quand on est jeune journaliste, ce qu'on écrit de la réalité. Là, j'ai compris une première fois qu'il y avait des conséquences à ce que j'écrivais. Et puis, un souvenir plus récent, je dirais, le jour où j'ai remporté des prix, le prix Varenne et le prix du Club de la Presse pour un sujet que j'avais écrit. Forcément, c'est vos pairs qui vous, qui vous honorent. Donc, c'est quand même c'est aussi un très bon souvenir dans ma carrière.
Rachid.
Ouais. Donc, moi, j'ai une question qui rejoint un peu la question de Malika. Mais avoir votre avis perso, est-ce que la presse écrite est voué à disparaître? Et pour aller plus loin, est-ce que le métier du journaliste est un peu en danger avec l'intelligence artificielle qui peut aussi modifier le travail, quoi?
Rédiger des articles, même, carrément.
Ouais, c'est deux très bonnes questions. La première, je vais vous répondre très franchement par rapport au fait. Oui, je pense qu'il est possible que la presse écrite disparaisse un jour. C'est une vraie possibilité. Parce que pour que la presse écrite existe, il faut qu'elle soit achetée. Il faut que les gens s'abonnent à cette presse-là. Et on sait que voilà, c'est peut-être compliqué pour certaines personnes d'acheter un abonnement. Et pour répondre à votre deuxième question, l'IA, je pense qu'il faut s'en servir. Comment ? C'est ça la question. Au sein de mon journal, on a créé une charte autour de l'intelligence artificielle, parce que c'est des questions qu'on se pose, évidemment, et on a réfléchi en comité de journalistes pour dire comment traite-t-on le sujet, c'est-à-dire comment on va exploiter l'intelligence artificielle au sein de notre journal. Je pense, ça me regarde, et je pense qu'on est un peu dans cet esprit-là au niveau de la charte, qu'il y a des outils qui peuvent être très utiles pour les journalistes, qui peuvent les aider à faire à prendre des notes, par exemple, vous enregistrez un audio, et puis l'intelligence artificielle va retranscrire ce que vous avez écrit. Cette partie-là, moi, elle me paraît hyper intéressante, et je pense qu'elle peut nous faire gagner du temps pour nous permettre de faire des choses peut-être un peu plus intéressantes. En revanche, là où je suis pas favorable, c'est sur l'IA générative, c'est-à-dire écrire des articles. Et quant à savoir si l'IA va un jour ou l'autre remplacer le journalisme, je pense que sur certains sujets, elle peut tout à fait remplacer un journaliste, mais sur d'autres, elle ne le peut pas du tout. Je pense que l'intelligence artificielle ne pourra jamais aller sur le terrain
c'est
comme un journaliste.
C'est exactement ce que j'allais te dire.
Voilà. Voilà.
Cependant, elle se nourrit, l'intelligence artificielle, des données. Si vous l'utilisez, elle va finir par maîtriser, mis à part le terrain, elle va finir par maîtriser et à parler comme un journaliste. Vous voyez, les données sont... Il y a pas longtemps, j'ai entendu dire, je sais pas où, toutes les données, en fait, il fallait se désinscrire récemment, sinon elles passaient dans le service public pour développer l'intelligence d'Internet, de Google, en fait. Voilà, donc il n'y a personne qui l'a fait ici. On va tous dessus, il n'y a personne qui l'a fait. Si les journalistes ne se protègent pas, en fait, l'IA va être après à leur niveau, vu qu'elle va tout leur piquer, quoi.
Vous avez raison, en fait, c'est une question qu'on s'est posée. L'idée, en fait, c'est que l'IA se nourrit, en fait, de ce qu'on lui donne, des datas qu'on lui donne. C'est comme une bête qui vient se nourrir, comme ça, des données qu'on pourra lui fournir. Cependant, ça existe déjà, en fait, des intelligences artificielles. Si vous leur donnez mes articles, par exemple, des 15 dernières années, elle va mouliner ces papiers-là, et elle peut très bien, aujourd'hui, en 2025, reproduire la manière dont j'écris. Pas que ma manière d'écrire soit exceptionnelle, mais simplement, elle va la reproduire assez facilement. C'est pas une difficulté aujourd'hui pour l'IA. Je pense que oui, je suis pas inquiet, moi, sur le fait que l'intelligence artificielle remplace vraiment le journaliste. En revanche, il y a beaucoup de tâches qui sont aujourd'hui réalisées par les journalistes qui peuvent être faites par l'IA. Je pense peut-être la moitié.
On est en train d'exploser le compteur, mais on va faire les trois dernières questions. Donc Serge, Malika et Nicolas après.
Oui, monsieur Cheba, je ne lis pas souvent en heure éclair. Tantôt je le lis, mais je crois que j'ai remarqué, à moins que je me trompe, qu'on ne fait plus d'histoire sur le patois et le ch'ti.
On avait, c'est vrai, une personne, un journaliste, qui consacrait chaque semaine un papier autour du patois. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, notre rôle en tant que Voix du Nord ou Nord Éclair, et c'est inscrit dans la ligne éditoriale, c'est de mettre en valeur, en fait, les territoires du Nord et du Pas-de-Calais, la culture du Nord et du Pas-de-Calais, et les gens du Nord et du Pas-de-Calais. C'est vraiment dans notre ADN, en fait, hein. Nous, dès qu'on peut mettre une initiative en valeur, on le fait. On pense parfois que les journalistes sont des bêtes à toi fait de sang et que forcément on va aller d'abord et avant tout chercher des faits divers et des choses un peu glauques. En réalité, les journalistes, je peux vous dire, ils préfèrent largement parler de sujets positifs, rayonnants, que de parler de faits divers. Quand vous êtes appelé à 2h du matin parce que sur l'autoroute, il y a un carambolage et qu'il y a un enfant de 10 ans qui est en train d'agoniser dans une voiture, je peux vous dire que c'est dur, c'est dur. Et donc nous, notre objectif, c'est d'abord, je m'écarte un peu du sujet, mais notre objectif d'abord, c'est de mettre en valeur, en fait. Moi, je suis jamais plus heureux que quand j'ai mis en valeur une personne, une action, une initiative. C'est ce que je préfère faire. Mais et dans ce cadre-là, on parle voilà, du patois. Alors peut-être pas comme avant, c'est vrai, sans doute, vous avez raison. Mais on continuera à le faire.
Malika.
Moi, je voulais vous poser une question. C'est un peu le journal quotidien. Il est lu très tôt. Et je veux dire, après, on le jette. On épluche les légumes dedans. On l'oublie dans un train. On le met dans une poubelle. On allume le feu. Il sert à quelque chose.
J'adore votre question, j'adore votre remarque. Elle est tellement juste. En fait, je vais vous dire pourquoi elle est juste. Parce que déjà, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit, premièrement. Deuxièmement, ça nous apprend, nous, journalistes, l'humilité. C'est ce que je dis toujours. Je veux dire, moi, mon papier va servir à emballer le poisson. Et puis, je vais même vous raconter une anecdote. Un jour, il y avait un match de foot, je crois que c'était à Lens. Et le journaliste devait traiter le sujet pour le journal du lendemain. Ça veut dire qu'on avait prévu une place assez importante dans le journal pour ces papiers-là. Et puis pas de bol, brouillard, et le match est annulé. Et là, on se retrouve avec un gros pavé dans le journal, vide, rien. Sauf qu'il est 23h, enfin, peut-être un peu moins, mais en tout cas, il est tard. Et le journaliste a cette idée de faire un sujet sur tous les usages du journal, parmi lesquels ceux que vous avez cités, en fait, emballer le poisson, éplucher les pommes de terre, utiliser pour faire le feu, bah bref. Voilà, donc vous avez raison, ça sert aussi à ça, la Voix du Nord, et les journaux en général.
Allez, la dernière question, Nicolas.
Est-ce que ça vous prend du temps quand vous écrivez dans le Nord-Éclair, la Voix du Nord, c'est vous qui écrivez tout ça ou c'est déjà reporté ?
Alors, celui qui va faire le reportage, c'est celui qui va écrire. Ça, c'est la règle. Est-ce que ça prend du temps ? Je dirais que...
Parce que ça doit être infernal pour vous, quoi. Ça doit vous stresser, hein, d'écrire toujours comme ça.
Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire, oui, quand on débute. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs de journaliste débutant où j'étais même tétanisé, en fait. C'est-à-dire que je savais que j'avais un papier à écrire. Je ne sais plus pour quelle raison j'étais tétanisé. Si, je sais. Parce que j'écrivais pour des pages... plus général. J'écrivais pour un secteur plus grand. C'était la première fois que j'écrivais pour toute la métropole lilloise, alors que avant j'écrivais juste pour le Villeneuve d'Ascq. Et là, j'écrivais pour toute la métropole lilloise. Et ça m'a tétanisé. Je n'arrivais pas à écrire, alors que ça faisait 3, 4, 5, 6 mois que j'étais journaliste. Donc ça peut tétaniser, ça peut faire peur. Mais en réalité, avec le temps, on s'habitue et on peut même écrire dans le stress et dans l'urgence. Mais pour répondre précisément à votre question par rapport au temps, c'est beaucoup plus long d'aller chercher les informations que d'écrire.
Ouais, parce que écrire la police informatique, c'est les lettres et tout ça, parce que d'écrire d'une façon comme ça, proprement...
Non, mais c'est l'ordinateur qui fait tout.
Je me suis demandé quoi, parce que franchement, écrire comme ça... C'est...
Bon, allez, rapidos, Maxime.
Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche ?
Très rarement. Ça m'est arrivé une fois. Mais ça va vous intéresser parce que c'était un concert. C'était le concert de la chanteuse d'Erita Mitsuko.
Ah oui,
aide-moi Ben.
Catherine Ringer.
Catherine Ringer, merci, bravo. Et en fait, j'étais parti sur un format donné, c'est-à-dire un petit papier. Et donc je fais faire le sujet. Et quand je reviens, je vois que dans la page, c'est un sujet plus important.
C'est votre génération, l'Erita Mitsuko.
Et en fait, tout à fait. Et en fait, c'est tout bête. Alors que je peux écrire des papiers plus longs sans aucun problème. Mais je ne sais pas pourquoi. Ce jour-là, j'ai eu une forme de blocage. Je dis, non, mais dans ma tête, c'était pas prévu autant. J'avais prévu moins. Et j'étais allé en me disant, bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de signes. Ça va aller vite. Et j'ai mis plus de temps que d'habitude à écrire ce papier-là. Mais pour la page blanche, non, on ne l'a pas vraiment.
D'accord, merci.
Je crois que le temps... Merci. Ça fait plaisir de vous entendre. Mais je crois que Benoît, il n'y a pas le temps.
Exactement, on va faire une petite pause musicale quand même avant de passer à la suite. Max, on va écouter ta musique tout de suite. Tu peux nous la présenter, ouais.
Oui, c'est une musique du style dub qui s'appelle Ras Divarius. Et j'ai juste...
C'est les Wedding Dub, en fait. Non ? Ah si, c'est Wedding... Ah non, Wedding Dub et Ras Divarius. Ok, ouais. Le morceau s'appelle Gypsy Dub.
Exactement.
Wedding Dub, un artiste local.
Oui.
Un artiste du coin. Allez, c'est parti. l'entonnoir, émission 828. On a coupé ce morceau parce que l'actu est chargée. C'est d'ailleurs le moment de l'actu service dans les entonnoirs. Jingle.
Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonjour.
Olivier, je vois que t'es chaud. Allez, vas-y.
Oui. Alors, une petite information en sport à Roubaix. Une belle aventure pour 37 collégiens, élèves du cours L'Accordé. 37 collégiens et 3 jeunes en situation de handicap. 278 km en vélo durant 50 heures et 4 pays différents de traverser. Ils sont partis d'Aix, La Chapelle, mercredi passé. Ils ont été de Maastricht à Bruxelles. Un truc de dingue, conclut le prof de sport à l'origine du projet.
Extrait d'un article de
Noir-Éclair, pardon.
Voilà.
Dis-moi, monsieur Samy.
Ok, est-ce qu'il y a des réactions sur ce sujet ? Antoine, ouais.
Bah, franchement, en vrai, c'est beau, mais est-ce qu'on a l'information sur comment ils ont fait ce voyage ? Ils l'ont fait à pied,
en vélo.
En vélo, ok.
Ouais, ils sont arrivés au vélo de l'Ornan. Les gens ne peuvent pas voir la photo à la radio.
Allez, info suivante, Houssine. Le micro, Houssine.
Alors, moi, je vais vous parler de Bruce Springsteen, qui défie Donald Trump et livre un concert dans d'anthologie. Les menaces de Trump ne l'ont fait reculer. Lors du premier de ces deux concerts, Villeneuve, Springsteen a continué de mener la charge contre le président américain, donnant un concert guidé par la colère, mais aussi l'espoir vibrant, bouleversant et historique. Ensuite.
Attends, article 2.
La Voix du Nord.
Serge, tu veux réagir, ouais.
Ouais, je vais répondre à ta question aussi. Le chanteur américain, ok, il a insulté, des insultes plus ou moins envers Donald Trump, ok, parce qu'il ne pourra rien perdre. Moi, j'ai un autre, ça ne correspond pas du tout à ce chanteur, le groupe Pink Floyd, que j'étais voir au stade Mauroy. Alors, eux, ils ont mis une bande comme quoi Trump, c'était un gros porc. Avec des amis comme ça. Et ça fait tout le tour de la salle. Et ça a été filmé peut-être par des journalistes américains. Mais de toute façon, tu peux pas les attaquer. C'est tellement des gens qui sont connus par des milliers de personnes. Ils ne pourront rien faire de toute façon. Voilà.
Sujet suivant, Nicolas.
Je vais vous parler de ce qui s'est passé à Lille. Pourtant, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai déjà fait le Grand Boulevard il n'y a pas longtemps. À Lille, dans le quartier d'Arfèvre à Lille, dans une tour, il y a un étage qui a pris feu. La tour, elle mesure 120 mètres et la tour voisine, elle mesure 110 mètres. Elles ont été construites en 1988. Ça va, je n'étais pas encore né.
Des précisions sur l'origine de cet incendie, non ? Samy, non ? Tu n'es pas au courant ? Bon, ok.
J'ai des nouvelles de l'incendie de l'immeuble à Roubaix, que ça avait cramé par le bord et ça avait monté.
Ouais.
Ça, on passe du commissariat de Roubaix. Mais Lille, pas d'écho.
Ok, sujet suivant. Houssine, t'as encore des sujets, il me semble. Hein.
Non, c'est pas un sujet, mais c'est un changement. Alors, la MDPH pour Roubaix, c'est plus avenue de la Toison d'Or à Villeneuve-d'Ascq, c'est à Lille, pour mieux accueillir les publics. Pour recevoir les dossiers de partout dans le département, je vous la communique, c'est au 51 rue Gustave Delory, 59040 à Lille Cedex.
Merci pour ces précisions.
Adoré.
On passe au sujet suivant proposé par Antoine. La parole est à toi.
Yes. Alors d'abord, pour commencer mon sujet, j'aimerais commencer avec une question pour vous, l'équipe. Si je vous dis toxique ou produit addictif, à quoi ça vous fait penser ?
Alors, ça fait penser à addictologie, ça veut dire manque. et ça fait penser tout d'abord à la drogue. Et il y a aussi quelques médicaments que, enfin, je pense, oui, comme les somnifères dont on peut tomber addict.
L'ecstasy, c'est ça ?
Ouais. Ça rentre dans la drogue, ouais.
Même le cannabis, hein.
Mm-hmm. L'alcool.
Les jeux vidéo, le sexe, il y a plein d'addictions, en fait.
Et l'alcool ?
Tout ce qui apporte du plaisir, de la sérotonine, déjà, ça peut... C'est sûr. Du coup, pour continuer, pour commencer le sujet, on va faire un petit vrai ou faux. Donc, je vais vous donner des informations. Et vous avez juste à me dire si l'info est bonne ou pas. La première, c'est le cannabis. C'est une plante naturelle, donc ce n'est pas dangereux. Est-ce vrai ou faux ?
Faux. Bon, c'est une plante naturelle, oui, mais c'est pas dangereux. Faux.
Évidemment, naturel ne veut pas dire inoffensif. Donc, pour information, oui.
D'ailleurs, il y a des poisons, hein, la ciguë, la digitaline.
Exactement. Et donc, du coup, pour ce qui est du cannabis, à long terme, ça peut agir sur la mémoire, l'humeur, la motivation et les relations sociales. Pour la deuxième petite info, l'alcool est moins grave que les drogues dures. Est-ce vrai ou faux ?
Faux.
Tout à fait. L'alcool est une des substances les plus dangereuses à long terme, dû à ses effets sur le foie, le cerveau, la violence que ça peut provoquer et la dépendance et l'accoutumance. Troisième petite information, prendre un médicament qui n'est pas prescrit pour soi-même, est-ce que c'est risqué ?
Oui.
Vrai. Oui. Exact. Tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique, sédatif, tout ça, ça peut créer une dépendance et ou des effets secondaires très graves s'ils sont mal utilisés.
Serge.
Il y a même des médicaments qui sont marqués sur les boîtes, éviter de conduire.
Ouais, c'est ça. Il y a trois niveaux de dangerosité pour la conduite sur les boîtes de médicaments. Donc niveau 1, on peut conduire. Niveau 2, ils font un avis médical. Et niveau 3, par contre, c'est excessivement déconseillé.
Et femmes enceintes aussi. Et femmes enceintes.
Oui, c'est ça. Il y a aussi des...
C'est pas la première fois que j'ai pris des antidépresseurs, mais à un certain moment, j'ai eu des...
Faut qu'on enchaîne, les gars. Les réactions courtes, si vous
je
pouvez.
Moi, personnellement, on m'a interdit de conduire parce que je prenais des médicaments.
Donc, j'ai fait un petit sondage et selon la population, les raisons pour lesquelles les gens consomment seraient donc la fête, l'ennui, la souffrance, l'habitude, le sommeil et les angoisses. Et c'est justement à ce moment-là, quand on a la réponse sur pourquoi on en prend, qu'on peut commencer à chercher d'autres solutions pour régler ces problèmes au lieu de consommer des toxiques. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'idée aujourd'hui, c'était pas vraiment d'émettre de jugement sur qui que ce soit, mais c'était plus de réfléchir sur le sujet. Et si vous vous posez des questions ou que vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, il existe des numéros attribués justement à ça. Pour celui de Drogue Info Service, c'est le 08 00 23 13 13 qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h du matin à 2h du matin. Et pour Alcool Info Service, c'est le 09 80 98 09 30 qui est pareillement ouvert de 7 jours sur 7, de 8h du matin à 2h du matin. Et c'est tous les deux des numéros de l'État. Et totalement gratuit.
Serge, vous avez une réaction ?
Il y a même un hôpital qui est marqué ses références. Si vous prenez de la drogue, vous téléphonez, vous parlez à quelqu'un, boisson, vous parlez à quelqu'un. Dans les établissements hospitalisés, il y a ça.
Allez, sans transition, Maxime, on va parler d'art.
Effectivement, aujourd'hui je vais vous présenter l'artiste Maurice Cornelis ou MC Escher, E-S-C-H-E-R. Pour illustrer ses propos, je vais parler tout d'abord de son œuvre phare qui s'appelle Relativity et qui a été produite en 1953. C'est Relativity, c'est pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est un tableau avec des escaliers infinis
qui se joue sur la gravité, la relativité, qui est pris dans l'imaginaire collectif, souvent repris dans la musique, les dessins animés, les jeux vidéo, le cinéma, comme par exemple Harry Potter ou Les Simpsons, avec le gag du canapé qui a été repris, Futurama aussi. Et il a été souvent aussi repris par Daft Punk, Sonic, par Mouliara, etc. Relativity, c'est une œuvre, comme je l'ai dit, de M.C. Escher, qui est né le 17 du 6-1898 aux Pays-Bas, à Leeuwarden, et qui est mort le 27 du 3-1972 aux Pays-Bas, aussi à Hilversum. De ce qu'il dit de son œuvre, c'est que tout cela n'est rien comparé à ce qu'il a dans sa tête. C'est un passionné de dessin et de mathématiques, et il a fait des études d'architecture, mais faute de résultats, il s'est plus tourné vers les beaux-arts. Son travail se porte sur l'ombre, la lumière, la transparence, le reflet, les points de fuite, les rotations, la métamorphose, etc. C'est plus des gravures sur bois, sur de la manière noire, sur de la lithographie. Il a fait plus de 448 estampes et plus de 2000 dessins. C'est des constructions impossibles, des explorations de l'infini. Ses influences sont le Château Mort de Grenade. Ses œuvres, autres que Relativity, sont dessinées, montée, descente, un autre monde, métamorphose, escalier, etc. Il a créé une fondation en 1968. Beaucoup de gens le définissaient comme un mathémagicien. Il y a eu énormément d'ouvrages, un musée à son nom. Parmi les ouvrages, celui d'Alan Nicholas, Parcelle infinie, promenade au jardin des Cheurs. Pour finir, je vais vous citer Gilles Métel dans son Art magique. Ce n'est pas la représentation de l'espace qui est en question, mais la façon de l'habiter en défiant les lois de la gravitation. Mes sources sont Alt236, Wikipédia, Le Monde, Étrange Déchir, YouTube, Graphéine, mcescher.com. Merci de m'avoir écouté.
Merci Maxime. On passe aux sorties culturelles. Avec Greg.
Oui, attention, il ne nous reste plus que quelques jours pour aller voir l'exposition à la piscine de Roubaix, Rodin et Bourdel, dans Corps à Corps. Ils ont fait tous les deux plus de 170 œuvres. En face à face entre ces deux maîtres et de la sculpture qui sont déjà de 50 ans passés ensemble. Alors je vous conseille d'aller le voir. C'est gratuit, c'est à la piscine de Roubaix. Ça se passe jusqu'au 1er juin. Donc n'hésitez pas à y aller. Et j'ai une blague. Alors attention, accrochez-vous. Quelle mamie fait peur aux voleurs ?
Ma mitraillette. Je l'ai construite l'autre fois.
Tu l'avais, toi ? Je suis dégoûté.
Nico, une blague ? Allez, vas-y, à ton tour. On va voir si Greg, il l'a.
Pourquoi Hulk a un beau jardin ? Il l'a pas. Parce qu'il a la main verte.
Ok. Bon, merci, Greg. On passe à la météo de Malika.
Le jingle.
Seigneur météo, toi, nous dis qu'il fait beau.
Bonjour auditeurs et auditrices, voici la météo de la métropole lilloise. Jeudi 29 mai, 14 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi, pluie fine. Vendredi 30 mai, 16 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi, partiellement ensoleillé. Voici la pensée du jour. Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. N'oubliez pas le reportage sur France 2, bien dans ma tête, qui se déroulera le mardi 3 juin à 21h.
Merci à tous d'avoir animé cette émission. Merci vous, auditeurs, qui nous avez écoutés. Je rappelle que les entonnoirs, c'est tous les mercredis à 8h sur Radio Campus Lille, Radio Boomerang à Roubaix et RCV 99FM à Lille, en podcast sur toutes les plateformes existantes. À la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
Au revoir.
Au revoir.
On se quitte avec une musique choisie par Nicolas. Il s'agit de
L'Ordi. C'est un groupe de hard rock comme ça, gothique, avec des gens qui s'habillent en tête de monstre. Dans les années 90.
Allez, musique.